Bonjour à toutes et à tous, un hôpital pour animaux sauvages en détresse, c'était le rêve de Didier Massy et sa compagne. Un rêve devenu réalité en 2007 lorsqu'il achète un terrain à Languidic pour y bâtir un centre de soins. Pour revenir sur cette aventure, je suis parti rejoindre Didier Massy pour un lâcher de goéland à l'entrée de la Ria d'Etel. Dans Adupépa, il va nous raconter son parcours, ses plus beaux moments comme ses plus grosses difficultés. Il nous expliquera comment se passe ce lâcher de goéland organisé par le plus grand centre de sauvegarde de faune sauvage de France. Didier Massy, bonjour.
Oui, bonjour.
Je le disais, vous gérez un centre de soins, mais vous avez commencé dans un tout autre domaine puisque vous êtes à l'origine restaurateur de meubles anciens.
Alors je suis toujours restaurateur de meubles anciens, c'est ce qui permet de payer les crédits, donc vaut mieux pas que je m'arrête. Il reste encore 2 ans, à peu près 2 ans et demi de crédit à payer, donc il faut réussir à gérer les deux, et les soins, et le centre, l'organisation, et les clients, ce qui n'est pas facile quoi.
C'est difficile, d'autant plus que cette mission que vous êtes donnée de ce centre de soins vous prend beaucoup de temps. Vous commencez dès le matin parfois jusqu'au soir.
Ah oui, ça commence à 6h30 le matin et puis bah, ça se termine vers 23h quoi, tous les jours.
7 jours sur 7.
Comment vous arrivez à concilier les deux, du coup, votre métier et cette action?
Alors, j'essaye de gérer certaines journées pour les clients et puis de temps en temps, quand il y a suffisamment de bénévoles compétents sur lesquels je puisse bien m'appuyer, ces jours-là, bah, je suis en atelier, quoi. Là, je suis en train de reformer des nouveaux bénévoles, donc suite aux petits soucis qu'on a eus, mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois où les clients ne sont pas très contents des fois, parce que je suis un peu lent, quoi, à faire tout. Et puis bon, ça fait pas mal d'années que je travaille, donc je vais avoir 66 ans à la fin de l'année, donc il y a un moment où on fatigue en même temps, donc j'ai pas la même puissance que quand j'en avais 40.
Cette idée de centre de soins, elle a commencé à naître suite au naufrage de l'Erika en 1999.
Oui, donc c'est toujours dans la mémoire, ça, et dans le cœur, hein. C'est décembre 99, Etel, et une boule de fioul qui n'était autre qu'un guillemot mazouté à 100%. Donc c'est vrai que ce jour-là, ça a été un tournant complet dans ma vie, puisque moi je suis végétarien depuis l'âge de 14 ans. Donc en ce temps-là, c'était pas la mode du tout. Et je savais pas ce que je pouvais faire pour vraiment aider les animaux. Et quand il y a eu cette catastrophe en 99, ça a été un tournant. Où du jour au lendemain, j'ai appelé les Etelois à filer un coup de main, à ramasser les animaux morts, vivants, et puis à commencer à œuvrer avec une association qui s'appelle toujours SEPNB Bretagne Vivante, et parallèlement avec la LPO, et puis pour apprendre, aller à gauche, à droite. Après l'Erika en 99, je me suis retrouvé en juillet-août jusqu'au 15 septembre en Afrique du Sud, à Cape Town, sur une autre marée noire. Et puis ça a continué. Ensuite, en 2003, il y a eu la marée noire du Prestige. Après, et ainsi de suite, quoi.
Voilà. C'est toutes ces expériences qui vous font germer cette idée de centre de soins qui naît en 2007?
Oui, parce que il existe quand même. Je suis pas le seul centre de soins pour la Bretagne, hein, puisqu'il y a le petit centre de soins de la LPO de Pleumeur-Boudou qui est là depuis bien bien longtemps et qui a vraiment un mérite énorme, parce que c'est un petit centre de soins et on est vraiment partenaire avec eux. Hein. On est tout le temps. Là, j'ai des fous de bassin, ils vont aller chez eux. Quand je les aurai remis sur pied, des fois, ils ont d'autres animaux qui nous amènent. Enfin, on est vraiment partenaires ensemble. Et c'est vrai que toutes les marées noires que j'ai faites, je me suis aperçu qu'il n'y avait que la LPO. Il n'y avait pas d'autres centres de soins qui étaient fixes. Il y avait à Lorient un couple, monsieur et madame Luant, qui faisaient dans leur maison, mais bon, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Donc je me suis dit, il faut créer quelque chose. Et plutôt que d'acheter une maison, j'ai acheté un grand truc, un petit peu trop grand, hein, 9 hectares, avec un grand hangar vide. Et avec ma compagne, on a dit, on va essayer dans ce hangar de faire un centre de soins, de mettre mon atelier d'ébéniste. Et puis on a pris une caravane et depuis 2007 on est en caravane.
Au départ j'imagine c'était du bricolage, il y avait des animaux un petit peu partout dans la maison.
Quand on était en location avant d'avoir Saint-Léon à Languidic, oui, on avait fait un petit centre de soins dans le grenier d'une maison en location. Donc là, mais c'était pas un peu partout, c'est-à-dire que sur 90 mètres carrés j'avais fait un petit centre de soins qui avait été agréé d'ailleurs par les services vétérinaires et tout. Et après en 2007 on a acheté Languidic. Et puis là, effectivement, petit à petit, on a structuré tout l'ensemble pour avoir vraiment bien séparé la maison, l'atelier et le centre de soins.
Vous avez démarré seulement avec 30 000 euros.
Oui, on a démarré avec un don de Nature et Découverte de 30 000 euros. Et puis avec les investissements personnels, c'est-à-dire qu'on a acheté l'ensemble 130 000 euros. En ce temps-là, on a pris un gros crédit. Et puis on avait 40 000 euros d'avance. Donc ces 40 000 euros sont passés là-dedans. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas que 30 000 euros parce qu'on avait tout le crédit plus les sous qu'on avait d'avance, qu'on a tout bouffé, quoi. Donc normalement, les 40 000 euros étaient prévus pour restaurer une petite maison qui est dedans, qui fait 6 mètres sur 7. Là, la maison, elle a plus de toit et puis nous, on est toujours en caravane, quoi. Bon, moi, ça me gêne pas trop, mais ma compagne, je crois qu'elle préférerait avoir un toit quand même et je la comprends.
En 2017, après 10 ans d'activité, vous commencez à vivre les premières difficultés financières puisque vous avez eu du mal à boucler votre budget.
Ouais, bah oui, il y avait deux choses, justement, et là on est en train de revivre la même chose. C'est-à-dire qu'en 2017, je travaillais pas assez, donc je n'arrivais plus à payer les crédits. Et du coup, en plus, c'était un moment où les autorités de tutelle ne nous prenaient pas encore au sérieux. Pourtant, ça faisait quand même 10 ans qu'on était là et ils étaient toujours, au bout de 10 ans, en train de nous demander de faire nos preuves. Donc je trouve qu'on les avait fait, nos preuves. Et surtout, il y a quand même quelque chose qui est très difficile, c'est que si on fait de la sensibilisation, on peut avoir des financements, mais si on fait des soins, on n'en a pas. Il n'y a pas de ligne budgétaire pour le soin à la faune sauvage. Il y a des lignes budgétaires, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit au niveau départemental, régional. Il y a des lignes budgétaires pour la sensibilisation, mais pas pour le soin.
Donc pour la prévention, mais pas pour l'action.
Voilà. Donc, en accident de la route, vous avez la prévention routière qui est là, et puis vous avez les hôpitaux qui soignent. Hein. Donc, nous, c'est pareil, on est hôpital qui soigne, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Et c'est vrai qu'à ce tarif-là, c'était... Donc là, on a failli fermer, on a fait une manifestation à Lorient qui a été entendue, vraiment. Et puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des subventions. Et puis, les particuliers aussi se sont dit, mais oui, c'est vraiment une action d'utilité publique. Donc, on est arrivé en 2019-2020, on était à presque 1000 adhérents. Donc 1000 adhérents et donateurs, donc c'est énorme. Hein, ce qui, pour un centre de soins comme nous, c'était vraiment énorme. Et là, on recommence à avoir les mêmes soucis, quoi.
Oui, parce que 5 ans plus tard, en février 2021, deuxième coup de tonnerre, vous quittez la direction de l'administration de cette association.
Ouais, c'est-à-dire que 2020, nouveau conseil d'administration, et dans ce conseil d'administration, je sens bien que les gens trouvent que je prends beaucoup trop de place. Donc les gens me poussent un petit peu à démissionner, d'abord de mon poste de président, ce que je fais en disant, si j'ai pas bien fait, il faut que les autres fassent mieux. Et puis, courant 2020, démissionner carrément du conseil d'administration, à savoir quand même que, comme je disais, on a démarré l'année 2021 avec quasiment 100 000 euros dans les caisses, quoi. Donc c'est que j'avais pas si mal géré ça, si mal géré le centre de soins, donc c'était pas mal, et comme je disais, quasiment 1000 adhérents, donc je crois que... Et puis une reconnaissance régionale et nationale de ce que l'on fait, quoi. Donc j'ai dit d'accord, je laisse tomber, je vous laisse faire. Et puis là, il y a eu un clash énorme, c'est-à-dire que le CA, le conseil d'administration, à partir du moment où j'y étais plus, m'a dit, il y a des travaux à faire, mais nous, on ne les fera que si on est propriétaire. J'ai dit, je peux pas vendre. J'ai mon atelier d'artisan, ma compagne aussi, on a des vaches, on a des ânes, on sait même pas quel prix, on sait rien. On ne fera des travaux que si on est propriétaire. Et puis, j'ai dit non. Donc ça a été... Ils se sont énervés, ils ont fait venir l'inspection du travail, ils ont fait venir huissier, ils ont fait venir...
Les gendarmes même qui sont venus ?
Ouais, lorsque l'huissier est venu, bah c'est les gendarmes, c'était moi qui avais demandé de les faire venir de manière à être sûr qu'il y ait une preuve que tout se passe bien, parce que je suis pas un va-t-en-guerre. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient, mais j'ai pas envie de me battre. Et ça nous retombe sur le dos d'ailleurs maintenant, mais donc ils sont venus et c'était plus jouable, donc j'ai dit on se sépare, allez faire un centre ailleurs, il n'y a pas de souci, moi je continue le mien, faites un centre ailleurs. Et puis donc moi j'étais en dessous, j'étais bien bas comme on dit, j'avais plus le moral, je savais plus que il y avait 20 ans de ma vie, et même 40 ans puisque j'étais végétarien depuis l'âge de 14 ans, donc tout se cassait la figure. Tous les rêves se cassaient la figure, et malheureusement, ces gens-là, au lieu de faire ce qu'il fallait, je crois qu'on en profitait un petit peu pour appuyer sur la tête pour que je me noie un peu plus facilement. Quoi.
Vous avez l'impression qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance pour tout votre investissement, toutes ces années ?
Alors, les bénévoles qu'on a, là, vous avez vu, il y avait des bénévoles ici et qu'on a tout le temps, et on a des adhérents, oui, ceux-là, ils reconnaissent. Par contre, tous les gens qui étaient au conseil d'administration et tout ça, vu ce qu'ils ont dit sur nous, vu ce qu'ils ont dit sur moi, puisque ce sont des gens qui se sont permis d'écrire que je faisais de l'enrichissement personnel, que je détournais des biens publics, alors que, comme je vous dis, avec ma compagne, on vit en caravane, on a investi toute notre vie là-dedans, donc c'est quand même des choses qui sont pas sympas à lire et à entendre.
D'autant plus que vous aviez dit que si le jour où vous mouriez, vous et votre femme, vous céderiez ce centre de soins.
Voilà, mais pour eux, c'était trop tard, il fallait que ça soit plus tôt, quoi. Donc, et ça s'est vraiment, ça se passe toujours mal, puisque là, ils ont porté plainte contre nous en diffamation, donc ça se passe toujours mal, c'est bien malheureux, et malgré tout, voilà, donc là, on se retrouve dans la même position, à recommencer comme il y a 14 ans, à recommencer des demandes de subventions, à reprouver qu'on est là, à reprouver que je suis debout, à reprouver qu'il y a une équipe derrière. Donc, il faut retrouver des finances. On a fait une demande là de budget participatif pour essayer d'embaucher une salariée, une soigneuse, parce que sinon, moi, je suis obligé d'être 7 jours sur 7 sur le site. Toute la journée, c'est une obligation légale que le capacitaire soit sur le site. Donc comme je vous disais, du coup je peux pas bosser en atelier, du coup les clients sont pas contents, c'est une première chose, et en plus je rentre pas de finances, donc faut continuer à payer les crédits, y a 1000 euros tous les mois de crédit, hein, l'air de rien, donc c'est pas rien, hein, donc on continue, et puis moi j'ai ça dans le ventre, hein, de sauver la faune sauvage, donc j'espère qu'un jour ils vont comprendre qu'ils peuvent monter un autre centre de soins ailleurs, il y a pas de souci. Je suis vice-président du réseau national des centres de soins de France. On est 6 vice-présidents, donc je suis un des vice-présidents. Donc automatiquement, je suis pas là pour démolir les centres de soins, je suis là pour aider ceux qui veulent se construire. Et à ce titre, le jour où ils construiront quelque chose dans un autre département, puisqu'il y en a besoin dans le 29, il y en a besoin dans le 35, il y en a même besoin dans le 22, parce que dans le 22, là, l'île grande, ils peuvent accueillir 800 animaux sur l'année, et très très peu d'oiseaux terrestres, quasiment que des oiseaux marins, et quasiment aucun mammifère, donc il faut un autre centre de soins dans le 22 aussi, donc il y a de la place partout, mais je crois que là ils ont décidé qu'il fallait qu'on ferme pour qu'on reconstruise un centre de soins ici, quoi. Donc il n'y a pas de raison, comme vous parliez de reconnaissance, même si je suis une tête de mule, même si je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un minimum de respect, même pas de reconnaissance, mais un minimum de respect, et que ces gens-là, comme tout divorce, dans les divorces, il y a des divorces à l'amiable, des divorces intelligents, et puis il y a des divorces n'importe quoi. Là, je crois que c'est un divorce n'importe quoi, où il y en a un des deux qui tape sur l'autre à longueur de temps et l'autre qui se tait. Donc j'ai fini de me taire il n'y a pas longtemps, où j'ai piqué un coup de gueule. Ils ont créé un logo qui s'appelle Triskel Volet de Piaf. Et comme j'en avais marre et que j'ai estimé qu'ils m'avaient volé mon nom, Volet de Piaf, donc j'ai transformé ce logo en tristes ailes, les ailes tristes en bas, et voleur de Piaf. Donc c'est vrai que On me reproche d'avoir eu un coup de gueule alors que je me fais démolir depuis des mois et des années, et c'est pour ça qu'ils portent plainte contre moi en diffamation. Mais j'estimais que c'était j'estime toujours que c'est une caricature, comme beaucoup de caricatures, et je croyais qu'en France la démocratie nous permettait de faire des caricatures. Faut croire que d'autres personnes n'ont pas tout à fait le même avis.
On est ici, Didier Massy, pour un lâcher de goéland. La fierté de sauver des animaux, ça compense peut-être toutes ces difficultés?
Oui, de toute façon, c'est ça. Si on veut être soigneur animalier, faut mettre son ego dans sa poche, il faut s'occuper, faut réfléchir animal. Donc là, ouais, quand on relâche, là, c'est pas énorme, 17 animaux. C'est 17 vies qu'on a sauvées, qui pètent le feu, qui sont partis en vol, certains qui n'avaient pas envie de voler, alors qu'on sait qu'ils volent parfaitement tous, on les a vus, on en a vu jouer avec l'air, parce qu'il y en a certains, c'était leur premier vol. Donc ceux qui sont partis, qui faisaient presque 800 grammes, là, sont arrivés, ils faisaient 80 grammes. Donc ils n'avaient jamais volé ailleurs que dans une volière. Et d'un seul coup, je les mets je leur offre les nuages. Donc on en a vu un qui s'amusait, qui faisait des piquets, qui faisait tourner à gauche, tourner à droite, rase-motte et tout, qui jouait tout seul, avec l'air, avec le vent, avec le soleil. C'est fabuleux à voir. Qu'est-ce qu'il y a de plus joli que ça, quoi? Je sais pas, mais c'est extraordinaire à voir. Et c'est vrai que c'est un remerciement. C'est la seule manière que j'ai de remercier les bénévoles, les adhérents, les sympathisants et tout, c'est de leur montrer ça, de leur dire venez voir, on relâche, venez, venez, venez.
Et on continue à discuter dans un instant, mais avant cela, on s'écoute Michel Fugain, Fais comme l'oiseau.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Chant de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu.
Michel Fugain, Fais comme l'oiseau. Et tout de suite, on retrouve Didier Massy pendant un lâcher de goéland près de son centre de soins pour animaux sauvages à Languidic.
À du Pépa.
Radio Broadway Net.
Quels sont les animaux les plus étonnants que vous avez sauvés?
Alors, moi j'ai un animal de prédilection qui est le martinet noir. C'est un petit animal qui fait 40 grammes, qui se pose jamais. Donc quand on les relâche, on en a lâché un dimanche, ça faisait 2 mois qu'il était là, et on se demandait si on allait pouvoir le relâcher un jour. Il était arrivé, il faisait 20 grammes, il est reparti, il en faisait 38. Et quand on pense que cet animal, au moment du relâcher, bah, il ne va pas se poser jamais, pendant 2 ans. Les 2 premières années, quasiment, il va être en vol. Il a été photographié à 9000 mètres d'altitude. C'est monumental. C'est un animal qui est absolument exceptionnel. Si je dois me réincarner quelque part, ça sera en martinet, moi. Et puis après, tous les autres.
Des phoques, vous avez eu, par exemple, des renards, des hérissons.
Alors, on a des bébés phoques tous les ans. On a au minimum un bébé phoque. On a été jusqu'à 5 bébés phoques sur la même année. Donc, on les soigne. Ce sont tous des bébés phoques qui ont des plaies. On les soigne. Ensuite, on les amène à Océanopolis, à Brest, puisqu'on est partenaire avec eux aussi. Et puis après, on les relâche au nord de la Bretagne. Donc, c'est assez fabuleux, quoi. Il y a certains, des fois, qui nous font des petits trucs un peu spéciaux. Là, j'ai en mémoire une vidéo d'un phoque qui a été assez étonnant, parce que au moment du relâcher, donc on était 6 ou 7, on relâchait 3 phoques ce jour-là avec Océanopolis. Donc on bascule les boîtes comme on a fait ici, là, on bascule les boîtes et puis le phoque part, les 3 partent à la mer. Il y en a 2 qui vont directement à l'eau. Et celui que j'avais soigné sur les 3, avant d'arriver à l'eau, alors que nous on était cachés derrière les boîtes, vraiment cachés, ce sont des grandes boîtes hein, qui font un peu plus d'un mètre cube, hein, c'est des grosses caisses, hein, parce qu'un phoque c'est lourd quand même, donc il faut que ça tienne. Avant d'aller à l'eau, il s'arrête net, il fait demi-tour, il fait le tour de la boîte, il vient me voir, il me donne un coup de museau, il repart. Je vais vous dire, 50 ans, 60 ans, 5 ans, vous êtes obligé de chialer. Parce que là, c'est le coup de cœur. C'est la chose auquel vous ne pouvez pas vous attendre. Et personne ne pouvait s'attendre à ça, quoi que ce soit. Les gars et les femmes d'Océanopolis, il y avait une Suisse qui était là en plus, qui était venue de Suisse pour le relâcher. Parce qu'elle était là au moment des soins, et elle était revenue de Suisse pour le relâcher. Et c'est vrai que c'est vraiment des coups de cœur.
C'est un de vos plus beaux moments?
Ouais, ça fait partie des plus beaux moments. De toute façon, je veux pas choisir dans les plus beaux moments avec les animaux, parce qu'ils nous donnent tous tellement. J'ai un tatouage sur le bras gauche, c'est une femelle cygne. J'ai un autre tatouage sur le bras droit, c'est un livre ouvert. Et sur toutes les pages qui s'envolent sont des animaux. C'est-à-dire que le livre, c'est moi, et ce livre a été écrit par les animaux.
Quelques minutes plus tôt, les bénévoles s'activaient aux côtés de Didier Massy pour récupérer les 15 cartons dans lesquels se cachaient les goélands le temps du transport. Didier Massy nous explique le parcours de ces animaux, qu'il a soigné avec les bénévoles, et pourquoi ils sont relâchés à cet endroit.
On est tout en haut de la Ria d'Etel. Donc là, ils ont à peu près 15 km d'eau de mer avant d'arriver vraiment à la mer. Donc c'est un endroit qui est calme, qui est protégé, et ils vont avoir tout ce qu'il faut à manger. Et de plus, on a une colonie de goélands qui est pas loin, où il y a à peu près une 50aine de goélands, de jeunes goélands en permanence. Donc là, ils vont pouvoir un peu s'ébattre, reprendre un petit peu des forces, et ils vont rejoindre d'ici demain la colonie de goélands qui est juste à côté, qui est à quelques kilomètres d'ici, quoi.
Ça fait des années que vous venez ici faire des lâchers de goélands?
Oui, depuis on a deux sites. Quand on a des petits nombres comme là, il y a 16 goélands, donc on peut se permettre de relâcher ces 16 goélands ici sur nos stands, parce que on va pas déstabiliser le lieu, on va pas déranger tout le monde, il va pas y avoir de prédation énorme et tout. Par contre, quand on a des gros relâchés, 50, 60, voire 100 comme on a des fois, là on va directement à Erdeven, sur la plage d'Erdeven, et automatiquement on les lâche sur la mer, et à un endroit bien précis aussi, qui est très très poissonneux pour eux, Donc parce que ce qu'il faut, c'est vraiment les relâcher à des endroits qui vont vraiment bien pour eux, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est que eux puissent partir vraiment dans les meilleures conditions possibles. Tous les bénévoles ont œuvré pendant des semaines et des semaines pour pouvoir les mettre en forme. Pour certains avaient des pattes cassées, des ailes cassées, d'autres étaient affamés. Donc pendant plusieurs semaines, ils se sont retrouvés au centre de soins. Et ça serait vraiment dommage le dernier jour de les relâcher n'importe où.
C'est un moment particulier pour vous, le moment où vous lâchez ces animaux que vous avez soignés pendant parfois des mois.
Alors il y a trois choses qui sont plus ou moins contradictoires. La première chose, c'est le cœur qui cogne parce qu'on leur redonne la liberté et c'est leur vie, c'est là où ils doivent aller. La deuxième chose, c'est le cœur qui cogne parce qu'on ne sait pas dans quel monde on les lâche. C'est-à-dire que la biodiversité, la nature est en train de se transformer, tout est en train de se casser dans tous les sens et on va relâcher des animaux, certains qu'on a élevés depuis 2 ou 3 mois, dans une nature qui leur est somme toute hostile. Mais leur vie est d'aller là-bas. Et la troisième chose, c'est le remerciement pour les bénévoles. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un relâché, on demande aux bénévoles de venir, on demande aux adhérents de venir, parce que si ces animaux sont relâchés, c'est parce qu'il y a des bénévoles derrière qui ont nourri, qui ont nettoyé, c'est parce qu'il y a des adhérents qui nous ont aidés au niveau finance, qui nous aident au niveau de des connaissances et tout. Donc c'est vraiment le remerciement. C'est vraiment trois choses qui se tiennent ensemble.
Les relâcher dans la nature, c'est comme un enfant qui retrouverait sa liberté ?
Oui, complètement. C'est vraiment certain, comme je vous disais. On a eu des bébés là qui sont arrivés, qui faisaient quoi, 80-90 grammes, donc des petits bébés goélands, et là, ils font 800 grammes. Donc vraiment, là, c'est la pleine liberté. On est un peu leurs parents, mais surtout, c'est ce qu'il ne faut pas. Il faut lâcher les enfants pour qu'ils puissent vivre leur vie à eux sans s'occuper de nous. Et ce qu'il y a de bien dans tous ces animaux qu'on relâche, c'est qu'ils reviennent pas nous dire merci. Et ça, c'est génial parce que on les relâche, ils partent, ils jouent.
Il n'y a pas de suivi par contre, vous ne pouvez pas savoir ce que deviennent ces animaux après.
Alors, on n'a plus de suivi maintenant. Avant, on avait un suivi parce qu'avec Bretagne Vivante, donc SEPNB Bretagne Vivante, on baguait les animaux avant de les relâcher. Donc, il y avait une campagne de bagage des goélands sur les nids. Donc à Groix, à Belle-Île, à Lorient, et une campagne de bagages à la sortie du centre de soins. Et du coup, comme ce sont des bagues qui sont très grosses, qui sont très visibles, à la longue vue on les voit sans problème, on peut lire les numéros qui sont dessus, ça nous permettait vraiment là de savoir s'il y avait une différence entre les animaux qu'on avait élevés nous, au niveau poids, au niveau répartition, et on s'est aperçu au bout de 5, 6, 7 ans qu'il n'y avait aucune différence. On a retrouvé des animaux élevés chez nous, relâchés ici, on les a retrouvés à Arcachon, quoi. On en a retrouvé à Brest, on en a retrouvé à Bénodet, Quimper, Concarneau, Lorient, enfin, on en retrouve partout, donc il n'y a aucune différence. Et du coup, on n'a plus besoin de faire ce système parce que c'est quand même, ça coûte de l'argent de baguer les animaux. Et comme maintenant on sait qu'au niveau poids ils vont bien, au niveau répartition ils vont bien, on n'a pas plus de retour de bague après une mortalité qu'il y en a dans la nature sans qu'ils aient été bagués, donc il n'y a plus besoin de les embêter avec ça.
Donc ils se réintègrent facilement dans la nature.
Ouais. Et ça, c'était vraiment la peur de beaucoup de gens, nous dire mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'en faire des toutous qui vont être complètement imprégnés par l'homme, et on s'est aperçu que quasiment 100% des animaux relâchés ne sont pas imprégnés du tout. Et c'est vrai que des fois on a envie, quand ils viennent nous voir, on a envie de leur parler, on a envie d'être proche d'eux, mais non, que ce soit là, on a des chevreuils, on a des martres, on a des fouines, on a des belettes, que ce soit des faucons, des buses, des chouettes ou les goélands, ils sont en premier sauvages. Donc à nous de mettre notre petit ego dans notre poche, mettre plein de mouchoirs par-dessus pour que ça reste là-dessous, et puis on s'estompe et on se met au service de l'animal. faut que les gens se rendent compte qu'on est en train de détruire la nature. La biodiversité, ça veut rien dire pour moi, c'est la nature qui veut dire quelque chose. On est en train de détruire la nature. Si on veut que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants voient encore des oiseaux, voient des mammifères, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse attention à eux, qu'on vive avec eux et en fonction d'eux. Et qu'on arrête d'inféoder l'animal à l'homme. Il faut que nous, on se mette à la portée de l'animal.
Si vous aviez un conseil justement pour nos auditeurs, pour aider justement à préserver les animaux.
Alors, si on veut préserver les animaux, sur les routes, c'est rouler doucement. Quand on a des baies vitrées, c'est de mettre des leurres. Et puis surtout, si on voit un animal en détresse, faut pas rester le regarder. Si vous attrapez un animal sauvage, c'est qu'il est en détresse. Il n'y a pas de raison. Un animal sauvage n'a pas du tout envie de se laisser attraper. Donc, si vous arrivez à l'attraper, c'est qu'il est en détresse. Et là, il ne faut pas chercher à être vétérinaire ou quoi que ce soit. Il faut nous appeler. Il y a des centres de soins dans toute la France. Donc, il faut trouver le numéro de téléphone du centre de soins, nous appeler, qu'on donne les premiers conseils et puis que nous, ensuite, on peut y se récupérer.
Parmi les bénévoles, Michel Fontana, compagnon de route de Didier Massy depuis de nombreuses années. Il est aux anges devant le spectacle de ces goélands qui repartent voler de leurs propres ailes.
Bon, c'est notre paiement, c'est notre salaire, ça.
C'est un bon moment pour vous ?
Ouais, c'est un très très bon moment. Ouais. Moi, cette année, j'en ai ramassé une cinquantaine, 50 même, exactement. Et je les vois pas souvent partir, parce que moi, je les amène directement au centre. Et c'est seulement à partir du centre qu'ils sont relâchés, quoi. Donc,
bien souvent, vous les retrouvez où ?
On me les amène souvent. Là, hier, c'est la police municipale. Parfois, je suis appelé par les vétérinaires, par les particuliers qui nous connaissent bien, parce qu'on fait ça depuis plus de 20 ans, donc ils nous connaissent. Mais souvent, on me les amène.
Voilà. Vous avez peur pour l'avenir de cette nature ?
Oui. Je suis presque content d'avoir mon âge, j'ai plus de 80 ans, j'ai 82 ans bien révolu. Je suis content parce que la nature est très très malade, très très malade, et les hommes sont malades aussi, ils suivent le mouvement, quoi. La nature est malade. Moi je vois bien que certaines populations d'oiseaux ont complètement, pas disparu, mais on sent en régression considérable, tel que le moineau, moi chez moi j'ai des moineaux, je suis très très content, je mets des nichoirs, donc j'obtiens des nichets de moineaux, je suis très content parce que même lui est en train de disparaître, quoi. Il est en régression considérable, et c'est vrai pour tous les oiseaux. Dans le temps on disait il y a trop de goélands argentés, mais maintenant ils se sont stabilisés. Il est vrai qu'on ne laisse plus traîner des poubelles comme on laissait traîner dans le temps, mais quand même, ils se sont stabilisés parce que l'homme prend toute la place, c'est tout bête. C'est ce que je pense.
Et vous pensez qu'il n'y a pas assez de prise de conscience ?
Ça vient tout doucement. Oui, il y a des prises de conscience, mais c'est au niveau politique qu'il faudra prendre des mesures. Hein, le peuple, oui, bouge beaucoup, je crois en les jeunes, aux actions des jeunes, mais c'est au niveau politique qu'il faut faire quelque chose d'efficace tout de suite, mais ça fait même très longtemps qu'on aurait dû. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on aurait dû déjà prendre des mesures contre la pollution, etc. Mais vous voyez ici, par exemple, il y avait des maisons qui s'écroulaient autour, qui donnaient refuge aux hirondelles, par exemple. Toutes ces maisons étaient retapées, mais pour des résidences secondaires, qui sont occupées un mois de l'année. Donc voilà, ça fait des refuges en moins pour les hirondelles, pour d'autres oiseaux. Et ça aussi, c'est un facteur de régression de certaines espèces. En Bretagne, on dit que les hirondelles ont disparu de 40%. C'est quand même quelque chose d'énorme, quoi. Voilà. Donc quand on a eu une petite toutou, on en prend grand soin, mais c'est un gros, gros travail. Ce que fait Didier Massy, c'est énorme, quoi. Énorme. Et moi, je le connais bien depuis un bout de temps.
Oui, voilà. Ça fait 14 ans que vous êtes membre de cette association, plus de 20 ans que vous connaissez Didier Massy.
Oui, ça fait 21 ans que je connais Didier, je l'ai connu à cause d'un oiseau. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas fondé ce centre. Et chez lui, c'était un peu bazar. Il y avait des nids partout, des oiseaux dans le salon. Enfin, c'était presque ça, quoi. Et donc, je l'ai connu à ce moment-là. Donc, c'est comme ça.
Ouais. Vous êtes content d'avoir vu justement l'évolution de ce centre de soins ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il évolue même très vite. Ce qui serait bien, c'est d'en avoir un autre, mais un vrai, quoi, qui nous aide. Parce que là, on avait, en 2020, je crois qu'on a eu 4045 entrées. C'est évidemment beaucoup trop, quoi. Et ça lui fait un travail considérable. Il nous faudrait des fonds aussi, de l'argent pour payer des soigneurs ou des soigneuses qui soient là à la longueur de temps, quoi. On a eu, et puis là maintenant on n'a plus parce qu'on manque de crédit. Donc, ce qu'on fait, c'est très très positif. Et ça sert tout le monde. Si on sauve les oiseaux, c'est un morceau d'histoire de la planète que l'on sauve. C'est bien évident, quoi. C'est bien évident, oui.
Et pour les jeunes qui nous entendent, est-ce que vous auriez un message à leur passer?
Oui, venez nous aider. Voilà, venez nous aider, on a besoin de vous, on a besoin de bénévolat. C'est pas toujours drôle, hein. Vous soignerez pas les oiseaux, vous passerez au Kärcher les fientes des oiseaux, voilà, parce que c'est nécessaire, il faut le faire. Mais venez nous aider, venez à Piaf.
Mais ça vaut le coup quand on voit justement après ces animaux repartir dans la nature.
Ah, bien sûr, venez, il y a des compensations très larges. D'abord, il y a la reconnaissance de tous les uns les autres. Et puis quand vous les voyez partir, vous êtes très largement payé. Voilà.
Et on termine en musique avec Jean Ferrat. Restera-t-il un chant d'oiseau?
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps? Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?